And turning today to the Gospel of John, chapter 2 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'Évangile de Jean au chapitre 2 au verset 1. L'Évangile de Jean chapitre 2 verset 1. Trois jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus y était. Et notre sujet, c'est le commencement des miracles ou des signes. Et nous voyons tout d'abord le premier point, c'est le message, l'enseignement des miracles. Trois jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée. C'est le troisième jour après que Philippe et Nathanaël ont été appelés. C'était un voyage assez long, à peu près 30 km et plus de Bethabara jusqu'à Nazareth. Et on pense que Cana, dont on parle dans ce chapitre, était à peu près à 10 km plus loin. Et dans ces circonstances, la chaleur de ces jours-là, c'était probablement 2 jours de marche. Et c'est probablement le troisième jour après que Philippe et Nathanaël ont été appelés pour suivre Jésus. Et la mère de Jésus était là. Je ne vais pas passer de temps sur ceci, soit parce que c'était quelqu'un qui était de sa parenté, qui se mariait à Cana, ou parce qu'elle avait déménagé à Cana, et certaines personnes pensaient que c'était le cas. Dans Marc, chapitre 6, verset 3, pourrait impliquer que Marie n'habitait plus à Nazareth, peut-être après la mort de Joseph, son mari, mais on ne sait pas. Mais la mère de Jésus était là, à ce mariage, et au verset 2, et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Où Jésus a été invité, ceci signifie que ceux qui sont avec lui, que ce soit des disciples ou de la parenté, sont conviés également. C'était probablement le cas. Et ils sont allés aux noces. Christ est allé à ce mariage. Dès le début, nous pouvons peut-être révéler le but de ce miracle. Mais le résultat, les conséquences, la signification, nous la verrons alors que nous lisons ce texte. Tout d'abord, comme tous les miracles, c'était clairement pour authentifier la divinité de Christ, sa puissance divine et sa gloire. Et ceci, c'est ce qui s'est passé au verset 11. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ils croyaient déjà auparavant, mais à présent, leur foi était puissamment fortifiée et confirmée. Tout d'abord, le but de ce miracle, c'était d'authentifier Christ, le Fils de Dieu. Et le deuxième but, et ceci et de même pour tous les miracles, cela illustre son œuvre, comme les miracles de guérison illustrent la guérison de l'âme. Tous ces miracles étaient des miracles qui se sont passés littéralement extraordinaires, mais ils sont là tous pour illustrer ce qui se passe dans la vie de l'âme de ceux qui viennent à Christ. Et de même, ce miracle illustre la même chose, cette transformation, cette œuvre de création de Christ, alors que Christ crée le vin à partir d'eau, une nouvelle création dans notre âme quand nous venons à Christ. Même la manière par laquelle ce miracle a été opéré, cette obéissance à Christ était essentielle. L'obéissance de même est essentielle pour le salut, dans la repentance, quand nous nous consacrons à lui dans la foi, etc. Et nous pourrions faire un parallèle entre ces miracles et la conversion et l'œuvre du salut. Tous les miracles illustrent l'œuvre de salut de Christ et ils authentifient également sa divinité, sa personne divine, son être divin. Mais il y a un point particulier pour ce miracle, c'est que ce premier miracle de Christ était dans un endroit petit, pauvre, qui n'était pas connu et appelé Cana en Galilée, non pas à Jérusalem. Et ceci enseigne aux disciples qu'il n'allait pas être un homme royal, noble, important, qu'il n'allait pas être quelqu'un qui allait les délivrer, être un gouverneur politique, quelqu'un qui allait dans la capitale, qui est né de la noblesse et qui avait des beaux vêtements pompeux. Non, il voyait que ses vêtements étaient simples, ordinaires. Et quand Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu », il était un homme ordinaire. Et ils étaient émerveillés. À présent, il arrive à Cana en Galilée. Et là, il va opérer son premier miracle. Un miracle merveilleux. Il y a un message en cela. Que tous ont besoin du salut. Et que les membres du gouvernement ont besoin du salut. Et il est venu pour être un homme de douleur, d'affliction, pour être un sauveur qui expie pour le péché, non pas pour être un gouverneur dans la capitale. Ainsi, ceci est important dans sa visite à Cana en Galilée. Et le quatrième point que nous pourrions voir ici, c'est qu'il est allé à cette fête, à ce mariage, pour attester de l'importance du mariage. Certaines personnes disent parfois « Oh, pourquoi est-ce que nous avons des cérémonies de mariage ? Oh, il n'y a pas de plus belle confirmation que d'avoir cette cérémonie de mariage. » Et nous avons la preuve ici, c'est que Christ a opéré son premier miracle dans cette cérémonie de mariage, ce premier culte de mariage. Ce n'est pas simplement une visite, mais le moment historique de cette première œuvre miraculeuse du Fils éternel de Dieu qui a été opérée dans ce village de campagne. Et nous soulignons ceci, c'était à une cérémonie de mariage. Un mariage chrétien. Alors, Christ est là et nous adorons le Seigneur et nous prêchons la parole de Dieu. C'est là notre obligation, notre devoir. N'ayez rien d'autre au mariage. C'est conversation conviviale, oui, et la famille, la parenté, mais n'amenez jamais le monde dans votre cérémonie de mariage, mais que ce soit un culte qui adore le Seigneur. Vous voulez que Christ vienne à votre mariage, au culte, à la cérémonie, mais également faites attention de ne pas l'avoir au culte et ensuite à la fête, au repas de noces, il n'est plus là et le monde entre, non. Souvenez-vous, il dit, non pas comme le monde vous donne, mais c'est moi qui vous le donne. Le mariage chrétien n'a rien à voir avec un mariage mondain et vous voulez le Seigneur dans votre vie de famille, dans votre vie de couple également. Ainsi, il a attesté de l'importance du culte de mariage, cette cérémonie de mariage. Et mon deuxième point est celui-ci. Ce problème insurmontable, et nous voyons à présent, nous allons considérer ce miracle au verset 3. « Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » C'est une déclaration extraordinaire. « Ils n'ont plus de vin. » Avant de continuer avec ceci, j'aimerais faire un commentaire sur le vin. Parce que certaines personnes sont confuses par ceci. Le vin de ces gens-là était fait maison, non pas partout, mais en Galilée. C'était fait maison, et ceci se passait à peu près 6 mois après le temps de la récolte. Et ils n'avaient plus de vin. J'imagine, et c'est là une hypothèse, qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient manquer de vin. Ils se sont dit « Oh, nous avons un mariage !» Et c'était là la coutume, les gens allaient venir de tous les villages aux alentours, et il pouvait y avoir 200, 300 personnes ou 400 personnes qui venaient au mariage, aux noces, et nous n'avons plus de vin à Cana. C'est simplement du vin fait maison, à petite échelle. Les experts nous disent que c'était entre 2,5 et 3% d'alcool. C'était un vin très doux et pas fort du tout. Dans certaines régions sophistiquées, il pouvait arriver à 4%, 5%, et certaines personnes qui buvaient avec excès étaient sous, mais ce vin était très faible parce qu'il n'avait pas la technologie pour qu'il soit plus fort. Il ne pouvait pas contrôler le processus de fermentation de la bonne manière. Ainsi, ce vin était très léger et doux, et certaines personnes pensaient même qu'il était dilué. Et très certainement, pour leurs événements religieux, ce vin était dilué. et ils n'avaient plus de vin. Ceci est incroyable. C'était là la boisson de ce jour-là. Les gens venaient par centaines, peut-être qu'ils restaient pendant 2-3 jours parce qu'ils marchaient longtemps, comme le Seigneur. Beaucoup d'entre eux avaient marché pendant 1 jour entier ou 2 jours. Ils avaient besoin de boire. Ils n'avaient plus de vin. Est-ce que nous pouvons continuer avec ce mariage? Oh, je pensais, c'est là mon hypothèse, que peut-être qu'ils allaient pouvoir en ramener des alentours. Mais ils n'ont pas pu apporter plus de vin aux alentours. Peut-être que tous les villages autour n'avaient plus de vin non plus. Ils n'avaient pas de vin et ceci est un grand problème. Vous pouvez presque entendre Marie dire ceci. Ils n'ont plus de vin. Ils sont tellement embarrassés pour un mariage. Ce village pauvre aura cette réputation d'être le village le plus pauvre et qui n'a même pas de vin. Pendant des années, les gens vont dire « Oh, vous vous souvenez de ce mariage ? Ils ne pouvaient pas nous donner de boisson. » Ainsi, c'était très embarrassant. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Qu'est-ce qu'elle attendait de lui ? Oh, vous pensez « Oh, fais un miracle !» Mais il n'avait pas encore fait de miracle jusqu'à ce jour-là. Le texte nous dit clairement que c'était le premier miracle. Ainsi, comment peut-elle savoir qu'il pouvait faire ces miracles ? Comment est-ce qu'elle pouvait savoir ce qu'il était capable de faire ? Sans aucun doute, il lui a dit, dans les 30 ans auparavant, il n'a pas laissé sa mère dans l'obscurité. Et elle savait son appel, ce qu'il allait faire. Elle savait sa perfection, sa vie parfaite, son caractère parfait. Ses chemins, sa manière, son caractère, elle savait qu'il était capable de tout. Elle a entendu les anges à sa nativité qui disaient ce qu'il allait faire, qui il était, le Fils de Dieu, son appel, ce qu'il allait faire. Bien sûr, elle savait que s'il le voulait, il pouvait tout faire. Et le Seigneur lui dit au verset 4, « Femme, dans notre traduction, « femme » semble un peu bizarre, mais sans aucun doute, c'était très courtois et plein de douceur. Il ne parle pas de sa mère, il ne dit pas « maman » parce qu'elle n'était pas sa mère. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Je suis appelée à faire mon œuvre en tant que Messie. Tout est planifié, tout est décidé par mon Père dans l'éternité passée, par l'Esprit-Saint également. Je dois suivre ce dessein, ce plan. Je ne peux pas simplement décider pour l'intérêt de la famille de faire ceci, mais la manière par laquelle il le dit. Et Marie a dû se dire, dans l'avenir, je ne veux plus lui demander. Elle a compris ceci. Mais il y a quelque chose dans la manière par laquelle il a répondu, qu'il allait agir dans ce cas-là. Elle le savait. Elle a compris ceci. Ainsi, elle dit aux serviteurs, verset 5, ils étaient des volontaires qui aidaient, qui servaient. Ces noces à Cana ne pouvaient pas avoir de serviteurs payés, mais ils étaient simplement des membres du village qui étaient volontaires pour servir. Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Mais il y avait un problème insurmontable. Comment est-ce que, humainement parlant, ce problème peut être résolu ? Vous auriez eu besoin de litres et de litres de vin pour des centaines de personnes chaque jour de ces 3 ou 4 jours de noces, même s'ils buvaient 3 ou 4 verres. Dans ce pays chaud, il y avait besoin de beaucoup de boissons. Je pense que on a cherché du vin partout dans les villages alentours, mais on n'a rien trouvé. Il y avait un problème insurmontable, sans aucun doute. Et ce miracle est grand et important à cause de ceci. Ainsi, Christ a créé du vin. Est-ce qu'il en a bu lui-même ? Ceci était permis aux gens de l'époque. C'était leur boisson habituelle et saine. Oh, les gens disent, il en a bu lui-même. Comment savent-ils ? Théologiquement, C'est peu probable qu'il en ait bu lui-même. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Parce que la loi et Christ a vécu une vie parfaite sous la loi de Moïse. La loi disait que le prêtre ne devait pas boire de vin et il était bien plus qu'un sacrificateur. Il était le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Est-ce que vous pensez qu'il allait boire ou qu'il allait se conformer parfaitement à la loi? C'est un problème théologique. Sans aucun doute, il allait se conformer à la loi. Je ne pense pas qu'il en ait bu lui-même. Mais c'est comme une parenthèse. Non seulement ceci, mais il était un roi. Il a ces trois aspects. Il est prophète, roi et sacrificateur. Et les rois d'Israël, les rois hébreux n'avaient pas le droit de boire non plus. Alors, est-ce que vous pensiez que Christ allait boire? Non, je ne pense pas. Je pense que selon la loi de Moïse, il ne buvait pas. Est-ce que nous devrions boire? Parce que nous sommes également des sacrificateurs pour le Seigneur et nous sommes toujours à son service. Et c'est ma conviction que le Nouveau Testament prépare les chrétiens à être ceux qui s'abstiennent de la boisson du vin, même si ce vin de ce jour-là était permis dans ces temps-là. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez ce qui s'est passé pour ce vin, toutes ces techniques qui l'ont rendu plus fort et plus concentré. Et à présent, ce n'est plus seulement fait maison, mais c'est en grande abondance, avec tant de différents goûts, un produit beaucoup plus fort. Et non seulement le vin, mais l'alcool fort également, et les spiritueux. Et maintenant, c'est un problème terrible pour toute la société, une grande source de souffrance, de choses terribles. Et le Nouveau Testament a tant de textes, de passages qui disent aux chrétiens d'éviter ces choses de cette nature-là. Ainsi, le vin a changé énormément et le Nouveau Testament nous prépare pour un tel changement et pour une telle situation. L'apôtre Paul, mais je ne vais pas aller dans les détails, ne buvait pas et ceci est clair. Et de même, Timothée, son grand imitateur. J'ai essayé de condenser mon petit livre, est-ce que les chrétiens doivent boire, dans un petit fascicule. C'était difficile, mais pour que ce soit plus accessible et plus facile à lire, ce fascicule est disponible. Alors lisez ce fascicule et vous verrez là tous ces arguments, comment ces choses ont changé et sont importantes. Oh, j'espère que vous ne pensez pas que c'est une mauvaise chose à faire que de faire de la publicité pour un livre, pour un fascicule dans ma prédication. Mais ceci est entre parenthèses. Il n'a pas bu de vin. Et ensuite, mon troisième point, c'est le besoin d'obéir, la nécessité d'obéir. Verset 5, « Sa mère dit à ceux qui servaient, faites tout ce qu'il vous dira. » Ne posez pas de questions. Elle a réalisé que il allait probablement demander quelque chose ou faire quelque chose qui peut-être ils allaient trouver bizarre. Et c'est là ce qu'il allait faire. Il n'y aura pas de logique dans ce qu'il allait leur demander au verset 6. Or il y avait là 6 vases de pierre placés pour la purification des Juifs, en d'autres termes, qui étaient là pour laver les mains, mais également, sans aucun doute, pour laver les pieds. C'est pour cela que ces vases de pierre étaient là. Et il y en avait 6, et ils contenaient 2 ou 3 mesures. Et les experts nous disent que c'était à peu près 100 litres pour chacun. Au verset 7, Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases ». Et les serviteurs pensaient « Oh, pourquoi? À quoi bon? Nous voulons du vin, pas de l'eau. On me demande de faire quelque chose qui est difficile, qui est lourd et qui n'a pas de logique. Mais les paroles de Marie dites avec beaucoup de douceur « Faites tout ce qu'il vous dira et peu importe ce qu'il vous dit, obéissez. » Alors, on va le faire. Et c'est là ce qu'ils ont fait. Ils ont rempli ces vases jusqu'en haut. Ainsi, Il n'y avait aucun doute en cela. Rien qui pouvait être ajouté. Et au verset 8, il leur dit « Puisez-en maintenant !» Oh, je pense qu'ils avaient des plus petits vases avec lesquels ils prenaient du grand vase et ils ont apporté au chef du festin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quand cette eau a été transformée en vin. Est-ce qu'elle était changée en vin dans le vase, dans le grand vase, ou est-ce que ceci a été changé en vin quand ils l'ont versé, ou quand ils l'ont porté vers le chef du festin, ou quand ils l'ont versé dans son verre? Nous ne savons pas. Ce miracle a été opéré avec beaucoup de discrétion, non pas avec une parole, Christ n'a rien dit, non pas avec un mouvement de la main, aucune indication de ceci, mais ce miracle a été opéré par la puissance invincible, silencieuse de sa souveraineté, l'exercice de sa souveraineté, sa puissance, et le vin a été créé là où il y avait de l'eau. Ce changement impossible qui sera une authentification de sa divinité et une bénédiction pour ce mariage, pour cette famille, pour ces villageois et tous ceux qui étaient présents. Ainsi, la nécessité de l'obéissance. S'ils n'avaient pas obéi, alors ils n'auraient eu aucune bénédiction, ils n'auraient eu aucun vin et aucun miracle. Ils avaient besoin d'obéir. Et c'est la même chose dans le salut, ceci est évident. Vous devez vous repentir et croire en Christ, vous consacrer à lui et fléchir le genou devant lui. Ou est-ce qu'il y a un autre chemin? Est-ce que je dois contribuer? Est-ce que je dois participer? Est-ce que je dois penser à mes soi-disant bonnes œuvres? Ou est-ce qu'il y aura une certaine instruction? C'est là ce que le jeune homme riche voulait quand il est venu à Christ. Qu'est-ce que je dois faire? Non, obéissez simplement. Repentez-vous de vos péchés et confiez-vous en lui seul, à ce qu'il a fait à la croix du calvaire, pour porter votre condamnation pour vos péchés. Donnez-lui votre vie et obéissez-lui. Soyez prêt à lui obéir alors qu'il vous donne la force et qu'il transforme votre vie. Il va vous demander de laisser le monde de côté, d'abandonner le monde, tous ses plaisirs. Il va vous demander de vivre pour lui. Soyez prêt à lui obéir. Peu importe ce que le monde dit. Et c'est là ce qui s'est passé. Puisez-en maintenant et portez-en au chef du festin. La nécessité absolue de l'obéissance, nous la voyons ici dans ce texte. Et ensuite, j'en arrive à un quatrième point, la qualité de ce miracle. Voyez ceci au verset 9, « Quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, or il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. » Bien sûr qu'ils le savaient. Ils étaient étonnés, stupéfaits, et les disciples le savaient également. Le chef du festin appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon. » Et après que les gens ont goûté à ce bon vin, qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont beaucoup bu, ceci suggère qu'ils sont presque sous, qu'ils ont beaucoup bu, mais ce n'est pas l'intention du texte en grec. Et la traduction NIV indique presque qu'ils sont sous, et ceci est vraiment triste, une mauvaise traduction, mais ceci veut dire que les gens sont satisfaits, qu'ils ont goûté de ce bon vin. Ensuite, on donne le vin qui est moins bon, après qu'ils soient satisfaits. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Cette opinion du chef de la fête, qui était-il? Je pense qu'il était une personne noble, d'importance. En Angleterre, à l'époque, c'était la personne la plus importante du coin, le seigneur des alentours qui était le gouverneur de la fête, le chef du festin. Et je pense que c'était la même chose, quelqu'un d'important, la personne la plus importante dans cet endroit pauvre. Et lui avait probablement un bon goût et l'expérience dans la vie et l'autorité, et il était émerveillé à la qualité du vin. C'était si rare, c'était un vin dilué, oui, mais c'était un vin bon, de bon goût. Il connaissait bien la région, je pense. Où est-ce que vous avez trouvé ce vin? Ceci a dû venir de bien loin. Ce vin est extraordinaire. Son goût est si raffiné, etc. Mais son opinion nous montre la supériorité de l'expérience chrétienne sur l'expérience des gens mondains. Tout d'abord, le monde nous donne de son mieux. Oh, ceci est une illustration évidente. La jeunesse vient avant le vieillissement, et la bonne santé, la vigueur, et tous les rêves, et tout ce que vous associez à la jeunesse, l'aventure, les découvertes, l'optimisme, les nouvelles expériences. Et ensuite la vie continue, le mariage, la famille, et les tâches familiales, les responsabilités, les fardeaux. Et ensuite il faut joindre les deux bouts, et ensuite plus de responsabilités, peut-être une mauvaise santé, le vieillissement, la douleur, les difficultés, beaucoup de déceptions. Et l'âge avance, et nous sommes faibles, affaiblis, et ensuite la mort. C'est là l'expérience des gens du monde, à son mieux, au début, et ensuite, tout va de pire en pire. Et pour le chrétien, c'est l'opposé. Au début, c'est « Oh, pourquoi est-ce que vous êtes si triste ?»« Oh, je ne veux pas vous donner la vraie réponse, mais je suis sous la conviction de péché, je pense à mon péché. » Et je réalise que je suis un individu si misérable, si terrible, si plein de péchés. L'expérience chrétienne commence avec cette tristesse. Et je réalise mon besoin de me repentir. Je réalise mon échec dans ma vie et mon besoin de donner ma vie à Christ. Et ensuite, je deviens un enfant de Dieu et j'ai cette expérience extraordinaire. Tout a été transformé dans ma vie. Et j'apprends la signification de la vie. J'apprends les grandes choses de Dieu et la Bible que j'ai devant moi constamment, et je la comprends de plus en plus, et j'ai ces réponses à mes prières, ces expériences du Seigneur qui intervient dans ma vie. Et alors que le temps passe, par la grâce de Dieu, nous devenons des gens plus profonds, plus riches dans notre expérience de la bonté de Dieu, de sa toute-puissance. Et nous sommes plus profonds et nous grandissons dans la foi, et ensuite nous nous attendons à cette chose extraordinaire dans notre vie, parce que dans peu de temps nous verrons le ciel, nous allons rencontrer Christ et la gloire céleste. Et alors que le monde est de pire en pire, et la personne du monde est de pire en pire, mais le chrétien, lui, se réjouit pour le futur, pour l'avenir. Et ceci reflète l'expérience de quelqu'un qui est incroyant comparé à quelqu'un qui est croyant. Le chrétien a vu le pire dans son passé et maintenant tout va de mieux en mieux jusqu'à ce qu'il arrive dans la cité céleste. Et j'aimerais considérer le résultat, les conséquences de ce miracle au verset 11 pour conclure. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Est-ce que vous ne trouvez pas que ceci est intéressant, que ce soit répété? Nous avons commencé avec ceci, cette référence à Cana en Galilée, et là, le texte nous rappelle à nouveau où nous sommes. Ceci est important. Ce premier miracle a été opéré dans cet endroit inconnu, ce village de campagne. C'est un point important. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Ceci nous montre qu'il est venu pour rappeler ceux qui sont petits, qui sont faibles, qui sont découragés, qui sont faibles, qui sont repentants, qui sont dans le besoin. C'est là la caractéristique de sa vie, de son œuvre, de son salut. Et il manifesta sa gloire, sa puissance de créer. Ceci était si merveilleux. Et fait en secret, en silence, de manière modeste. Mais les serviteurs, ceux qui servaient à la fête, le savaient. Et tous l'ont su. Et les disciples également l'ont vu. Ou au moins les 5 ou 6 premiers disciples qui ont été nommés dans le premier chapitre de Jean. Et très probablement, Jacques était l'un d'eux également. 5 ou 6 disciples étaient là, ils l'ont vu, Ils étaient témoins de ce miracle et leur foi était fortifiée. Ils étaient déjà convaincus qu'il était le Messie. Jean a pointé le doigt sur Christ et maintenant ils voient cette démonstration de sa gloire, de sa puissance. Ils ont vu la grâce, ce don qui n'est pas mérité et qui a été donné aux gens de Cana et à leurs invités. Le sauveur de la grâce. Ils ont vu l'abondance également. 6 vases pleins d'eau, des grands vases, et cette abondance de vin. Ils ont vu la qualité de son œuvre. Ce que Christ fait est merveilleux, plein de qualité. Et il vous convertit, il vous donne la vie nouvelle, la vie éternelle. Il vous donne ce nouveau caractère. Il ouvre votre esprit, il vous émancipe, il vous donne une nouvelle compréhension et une nouvelle perspective sur toute chose. Il vous donne cette mesure de puissance contre le péché, il vous donne cette citoyenneté dans cette cité éternelle, la vie éternelle. Ce que Christ crée est un acte merveilleux, de grande qualité. Ils ont appris l'intercession. Qu'est-ce qui a amené ce miracle? Une requête humble de Marie, sa mère. Oh, vous auriez pu dire qu'elle n'aurait pas dû demander ceci. Et elle a dû être reprise avec beaucoup de douceur. Oh, s'il te plaît, ne me demande pas de faveur pour ma famille. Ce n'est pas là ma mission. Et cependant, c'était l'intercession, cette prière. Et le Seigneur a répondu, a fait ce miracle en réponse. Ils ont appris par rapport à l'intercession. Ils ont appris l'obéissance. Ce qu'il vous demande de faire, faites-le. Et j'ai déjà montré ce parallèle avec la repentance et la foi. Ils ont vu également qu'il l'acquiesçait avec cette cérémonie de mariage. Et nous avons considéré ceci également. Ils ont vu la bonté dans le Sauveur en pourvoyant pour le besoin de ces gens. Ils ont vu la divinité, la puissance, la compassion, la sagesse en lui. Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ils allaient voir son œuvre en eux-mêmes alors qu'ils méditaient. Oh, ils allaient se dire, oh, j'étais spirituellement mort, j'étais sans espoir, faible spirituellement, je ne comprenais pas le but de la vie, je ne connaissais pas Dieu, je n'avais pas de cité céleste. Et j'ai été transformé. C'est là la conversion, par la repentance, par la foi, en nous confiant en Christ. Il m'a donné la vie, la vigueur, la force, la richesse. Que Christ soit dans chaque moment de votre vie le point central. Remettez chaque moment de votre vie, chaque jour de votre vie au Seigneur, que dans chaque mariage, dans chaque famille, dans chaque maison, il soit le centre, qu'il n'y ait rien dans votre vie qui va attrister l'esprit et qui va attrister le Seigneur. Mais servez-le et que le monde soit en dehors de votre vie. Ce miracle nous montre tout ceci. Nous avons considéré le message de ce miracle, le problème insurmontable auquel ce miracle a répondu, la nécessité de l'obéissance, la qualité de ce miracle et le résultat de ce miracle. Ô combien ce premier miracle est riche d'enseignements et combien il peut nous parler quand nous réfléchissons à ce texte et que nous y méditons.